exploration, gagner en XP dans le JV.
Chien, chat, cheval, lapin, furet, cochon, crabe, mais quand même surtout les chiens, tous ces animaux sont des compagnons de choix pour une aventure dans un univers vidéoludique. Oui, même le crabe. Aujourd'hui, on parle d'animaux dans les jeux vidéo, mais surtout de notre rapport avec eux. Rapport en un seul mot, hein, pas le mélange d'un muridé et d'un pourceau. Alors, les animaux, le jeu vidéo et les animaux, bien souvent, ça ne fait pas vraiment bon ménage. Déjà, autant commencer par là, la violence dans les jeux vidéo, ça dérange pas mal. Mais alors, si dans certains jeux, on n'hésite pas à tabasser nos contemporains, les animaux, eux, ont carrément le droit à une extinction de masse. Sérieusement, être une bête d'un sauvage dans un jeu vidéo, c'est l'équivalent d'être une frite dans un McDo. Les animaux dans des jeux d'action ou dans des jeux de rôle, bien souvent, ce sont les porteurs de ressources servant à améliorer nos compétences ou nos équipements. Ainsi, nous sommes gratifiés par la chasse de ces derniers qui à aucun moment n'est remise en question. La violence animale est malheureusement quelque chose de banal dans bien des titres. Et pour sûr, l'être humain possède très peu d'empathie pour certains animaux, dont les poissons, ce qui explique aussi que la pêche ait du succès dans les univers vidéoludiques. Et si l'utilisation d'animaux au cinéma est très réglementée, dans les jeux vidéo c'est différent, puisqu'il s'agit de représentations d'animaux et pas de véritables êtres sensibles faits de chair et d'os. Pourtant, les créateurs et créatrices n'ont jamais cessé de pousser le pseudo-réalisme à fond dans les productions récentes. L'objectif est bel et bien de nous faire croire que ces animaux sont là dans le jeu. Ainsi, certains joueurs ou joueuses sont capables de s'attacher à ces créatures, par empathie due à une certaine forme d'anthropocentrisme. Pour rappel, l'anthropocentrisme, c'est cette idée philosophique où l'homme serait l'être le plus significatif de l'univers et qui dès lors nous fait voir le monde au travers de concepts très humains. De ce fait, on associe une émotion humaine à des comportements animaliers. En effet, si certains jeux nous laissent chasser sans vergogne, d'autres n'hésitent pas à nous donner un compagnon de voyage, un petit être fragile, tout poilu et tout mignon, que l'on pourra cajoler pour nous réconforter. Cela a d'ailleurs lancé toute une tendance, puisque depuis quelques années, il existe sur les réseaux sociaux un compte qui vise à cataloguer tous les animaux qu'il est possible de câliner dans les jeux vidéo. Ce compte s'appelle Can You Pet the Dog, soit Est-ce que tu peux caresser le chien ? Il est géré par un Américain du nom de Tristan Cooper, qui est aussi le responsable des réseaux sociaux du média The Verge. Ce compte est suivi par des centaines de milliers de personnes et fait des millions de vues sur Twitter et TikTok notamment. Le compte est devenu tellement célèbre que certains studios n'hésitent pas à ajouter des chiens à dorloter dans leurs jeux pour que Tristan Cooper leur fasse gratuitement de la pub. Comme quoi, même quand ils sont là pour faire joli et apporter de la simplicité dans un jeu, les animaux servent un but et restent utilisés. Cette approche de l'animal pratique qui est transmise dans les jeux vidéo, cette approche qui les vide de leur sensibilité, c'est celle de l'animal machine. Selon Wikipédia, l'animal-machine est une thèse de la métaphysique dans laquelle le comportement des animaux est semblable au mécanisme des machines. Comme les machines, les animaux seraient des assemblages de pièces et rouages dénués de conscience. Cette thèse, on la doit à ce bon vieux René Descartes. Je pense donc je suis, tout ça, tout ça. Ceci dit, ce dernier considère tout de même qu'un animal est un être vivant et qu'il a des sentiments. Plus tard, des études réalisées sur les grands singes sont venues contredire le déterminisme de cette conception. Cependant, elle reste bien ancrée dans nos modes de pensée, puisqu'un animal dans une œuvre vidéoludique, c'est littéralement une machine, une suite de calculs et autres algorithmes formant un ou plusieurs systèmes s'imbriquant dans d'autres systèmes pour faire partie du jeu. Ainsi, du moment qu'un chat, chien, loup ou encore hippopotame s'inscrit dans cette vision utilitariste transmise dans une grande majorité des jeux vidéo, le joueur ou la joueuse est face à une machine au sens le plus absolu du terme. Je perds mes feuilles, cette empathie provoquée par ces animaux virtuels peut alors être paradoxale, ou en tout cas, l'idée d'une violence animale dans sa représentation est tout de suite reniée, voire peut-être considérée comme un vecteur d'amusement. Dès lors, il n'est pas étonnant que dans Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, dernier jeu issu de l'univers très prolifique d'Harry Potter, il est possible de jeter des sorts sur les chats se baladant dans l'école de sorcellerie pour les faire tomber, les faire s'envoler et retomber sur leurs pattes, et ça, à l'infini. En effet, les minous de ce titre sont invincibles, puisqu'ils sont d'abord été imaginés comme des animaux de compagnie que l'on peut caresser. Ceci dit, un des développeurs, sûrement inconsciemment influencé par les pensées machinistes de Descartes, a trouvé qu'il serait marrant que ces boules de poils puissent être victimes de certains de nos sorts, juste pour voir comment la machine réagirait. Ainsi, ces animaux sont des machines, tout comme le seraient des monstres de Monster Hunter ou encore les Pokémon qui, eux, pour le coup, répondent directement à des besoins d'intérêt. Alors, je sais que je divague un peu, hein, parce que les Pokémon sont des êtres fictionnels, mais à chaque nouveau jeu, les développeurs et développeuses de Game Freaks essayent d'appuyer encore plus l'aspect sensible des monstres de poche. Ceci dit, il y a quand même des pistes qui ont été creusées pour rendre nos bêtes vidéoludiques plus réelles et moins utiles. Alors, ces pistes, fondamentalement, ne peuvent pas retirer le fait que les animaux dans le paysage vidéoludique resteront des machines. Cependant, se débarrasser de ce côté utilitariste permet de créer une nouvelle dynamique d'empathie qui viendrait bousculer les habitudes des joueurs et joueuses. L'exemple le plus connu, c'est bien entendu Nintendogs sur Nintendo DS, qui est littéralement une simulation d'animal de compagnie. Les plus vieux connaissent le concept, puisqu'il s'agit d'une version améliorée des Tamagotchi, ces animaux miniatures vivant dans des petits jouets électroniques dont on devait s'occuper afin qu'ils ne meurent pas ou fassent leurs besoins partout. Nintendogs, on ne s'en rappelle plus trop aujourd'hui, mais c'était un véritable phénomène. C'est des dizaines de millions de ventes et des critiques plus que positives dans la presse spécialisée du monde entier. À l'époque, il était d'ailleurs le 6ème jeu à recevoir la note parfaite de 40 sur 40 dans le magazine japonais Famitsu. Les 5 autres étant The Legend of Zelda Ocarina of Time, The Legend of Zelda The Wind Waker, Final Fantasy XII, donc là normalement ça va, hein, on parle d'opus de licences qui sont internationalement connues et reconnues, et les deux derniers sont le jeu de combat Soul Calibur, dont Léo ne cesse de me faire la blague de l'annonceur du jeu qui dit mon nom puisqu'un personnage s'appelle Raphaël, et enfin Vagrant Story, un jeu de rôle tactique réalisé par une partie de l'équipe des Final Fantasy. Bref, que du lourd, et là, boum, Nintendogs, un jeu où l'objectif est de gérer un chenil. Un phénomène, je vous dis. Une preuve, tout d'abord, que la violence sur les animaux est moins vendeuse. Mais surtout, que ces derniers n'ont pas besoin d'être utiles pour créer des liens avec eux. Cependant, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment le fait d'avoir offert une certaine forme d'indépendance à ces animaux, et surtout pas d'en avoir fait des machines au service de l'homme, les a finalement rendus plus stimulants aux yeux des joueurs et des joueuses. Et cette dynamique de faire des bêtes de véritables êtres autonomes dans un jeu vidéo, étrangement, ça fait de plutôt bons jeux, puisque pas mal de créateurs et créatrices ont par la suite repris cette idée pour l'implémenter dans leur œuvre. Alors, certains et certaines me voient déjà venir, mais oui, je vais évidemment parler de Fumito Ueda et de deux de ses titres, Shadow of the Colossus et The Last Guardian, deux exemples parfaits d'animaux autonomes. Dans le premier, notre héros Wander est accompagné, dans sa quête pour ressusciter sa copine Mono, d'un cheval noir dénommé Agro. Et si bien souvent, dans les jeux vidéo où l'on monte à cheval, les étalons sont pensés comme des véhicules motorisés répondant directement à nos ordres, Agro a été pensé comme un cheval. Quand on monte sur ce dernier, nous continuons de contrôler Wander et pas Agro. Ainsi, nous donnons des instructions au cheval à la manière d'un véritable cavalier, et ce dernier, bien dressé, va y répondre comme le ferait la plupart du temps un canasson. Cela rend la bête plus difficile à manœuvrer qu'une voiture, mais à la fois, cela la rend plus attachante, d'autant qu'il est possible à plusieurs moments du jeu de combattre à dos de cheval. Par conséquent, le joueur peut réellement voir l'animal comme un compagnon de voyage. L'autre exemple d'animal autonome de chez Ueda, c'est bien évidemment Trico de The Last Guardian. Sorte de mélange entre un chat et un oiseau, à ceci près qu'il fait 30 mètres de long et 6 mètres de haut, Trico, c'est tout simplement le deutéragoniste de l'œuvre. Nous incarnons ici un jeune garçon qui va, à l'aide de Trico, s'échapper d'une immense cité en ruine. Cependant, Trico n'est pas un animal géant qui vous obéit au doigt et à l'œil. C'est une créature mystique, aussi bien dans l'univers du jeu que dans le paysage vidéoludique. Trico, c'est l'équivalent de votre animal de compagnie dont vous êtes complètement gaga, mais dans un jeu vidéo. Quand bien même vous attendez de lui à ce qu'il ne fasse pas de bêtises ou qu'il respecte vos consignes, cela reste un animal et il ne comprend pas vos attentes. Trico fait sa vie pendant que vous galérez, un peu comme votre chat ou votre chien finalement. Alors les moments ludiques du titre en souffrent évidemment, être face à un animal qui ne vous écoute pas, c'est frustrant. Mais à la fois, cela transmet une volonté artistique sincère. La bête nous marque car elle a du caractère et qu'à la différence d'une pléthore d'autres animaux du jeu vidéo, cette dernière semble avoir une véritable conscience. Alors, si vous souhaitez être réincarné en animal, évitez ceux des jeux vidéo, car des exemples comme les chiens de Nintendogs ou Agro sont loin d'être légion. Au final, on constate surtout que les créateurs et créatrices aiment bien l'idée d'animal-machine et qu'essayer de comprendre nos compagnons poilus, c'est tout de suite plus compliqué et c'est du temps qu'ils ne peuvent pas se permettre de prendre. Aussi, ce n'est pas si étonnant de voir des animaux anthropomorphes dans bien des titres. C'est vrai quoi, quelle meilleure bête que l'être humain.